acceptation de dividendes versés au titre de l'exercice 2010 par l'UEM. Monsieur Martallier.
Oui, monsieur, une intervention liminaire pour dire à monsieur Lécadire que j'avais distribué tous les bulletins d'inscription pour les échanges gourmands. Et comme l'année dernière, j'accueillerai deux étudiants et je réitère son invitation à participer à cette opération fort sympathique. Concernant le point qui nous concerne ici, Thierry Jean en a dévoilé la quasi-intégralité tout à l'heure. Il s'agit d'accepter les dividendes versés par l'UM à hauteur de 8 500 000 euros. La motion en conséquence.
Merci. Alors, monsieur Lebeau et monsieur Thierry Jean. Allez-y, monsieur. Ah, oulala. Monsieur Thiel et monsieur Aldrin, la nuit est à nous. On y va. Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, par un certain nombre de courriels et déjà en commission des finances, j'ai demandé à ce que l'on me procure les comptes annuels des trois sociétés liées à l'UEM. L'UEM, l'UREM et la CEREM. Et les lois, c'est-à-dire l'article L2121-13 du CGCT et la loi d'orientation 92-125 du 6 février 92 vous obligent à me les remettre. Malheureusement, au bout du quatrième courriel, je n'ai absolument rien. Donc vous ne respectez pas du tout la loi, le droit et en plus l'usage. Parce que, monsieur le maire, je vous rappellerai que j'avais fait une demande il n'y a pas si longtemps sur les comptes audités, les rapports des auditeurs sur le football club de Metz, sur l'association du football club de Metz. Et vous aviez accepté à ce moment-là de reporter le point. Parce que vous avez trouvé que c'était normal que les élus soient informés et puissent avoir connaissance du rapport du commissaire. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures dans cette assemblée. Donc, n'ayant pas l'information nécessaire et au vu aussi du point qui me fait réagir, c'est-à-dire de la bévue qu'a commis votre adjoint en disant que c'est le résultat consolidé qui est distribuable, absolument pas. C'est le résultat social qui peut être distribué, donc ce qui montre une bévue énorme. Et sachant que c'est pour la première fois de l'histoire de l'UEM qu'on distribue un montant supérieur au résultat net comptable, c'est-à-dire que l'on va appauvrir. Monsieur le maire, je sais que ça vous dérange,
non,
ce point-là.
Non,
mais je sais que c'est un point, c'est le point le plus important du Conseil. Parce que là, c'est vraiment, on voit réellement que votre stratégie est catastrophique. Parce que vous ne gérez pas un bon père de famille. Parce que tout bon père de famille sait qu'on ne peut pas distribuer plus que ce qu'une entreprise gagne. C'est-à-dire que pour pouvoir distribuer 10 millions d'euros, vous allez puiser dans les réserves. C'est-à-dire que vous allez faire appauvrir l'UEM, alors que l'UEM doit porter un projet que l'on pense, nous, trop ambitieux, mais que vous avez décidé, qui est la biomasse. Donc, pour porter ce projet de biomasse, il va falloir investir. Et pour investir, il lui faut des réserves. Eh bien, non. Vous puisez dans les réserves. Vous allez au-delà de sa capacité annuelle de finance, de distribution à son actionnaire. Donc, je comprends pourquoi vous ne voulez pas nous donner les comptes, parce qu'au-delà du fait qu'il y a un problème, c'est que le résultat a diminué et passé de 14,2 millions d'euros à 9,2 millions d'euros sans qu'on ait des éléments de compréhension. Donc, monsieur le maire, c'est simple, je demande, par rapport aux articles de loi que j'ai évoqués, le report de ce point, parce qu'il n'est impossible de voter en conscience ce point.
Merci, monsieur Thierry Jean. Il y avait monsieur Thiel, pardon, d'abord. Monsieur Thiel.
Bon, enfin, moi, je parle dans l'ordre que vous désirez, monsieur le président.
Allez-y.
Oui, tout à l'heure, Thierry Jean a été un peu brutal, quand même, comme à son habitude. Mais je voudrais dire, dans la continuité des propos tenus par Emmanuel Lebeau, que je suis effectivement extrêmement choqué que la ville de Metz fasse distribuer, en tant que principal actionnaire, je pense qu'elle a nettement son mot à dire, un bénéfice supérieur à celui qui a été produit. Le bénéfice net comptable, c'est dans la motion, est de 9 202 967,32 euros. D'habitude, quand on lit ce genre de motion, on a et décide d'attribuer au fonds de réserve tant, de façon à permettre un autofinancement à l'entreprise, pour lui permettre un développement, de nouveaux équipements, etc. Et on met généralement une partie seulement, qui est souvent d'ailleurs décidée par les marchés, il faut bien le reconnaître, mais comme l'UEM n'est pas tout à fait dans cette zone des marchés, j'entends l'action cotée en bourse, etc., je veux dire, à la limite, on pouvait même prévoir qu'on laisse une part extrêmement importante, plus que la réserve légale en tous les cas, à la disposition de l'entreprise. Et là, on a un bénéfice de 9 200 000 et quelques mille, et on va distribuer 10 millions. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en réserve une partie du bénéfice produit, on va prélever sur les réserves faites 797 000 euros pour arriver donc à cette somme ronde de 10 millions à distribuer aux actionnaires, dont la ville, puisqu'elle est actionnaire pour 85%, va récupérer 8 500 000 et de façon à nous présenter quelque chose comme si rien ne changeait, n'est-ce pas, et qu'on avait toujours 8 500 000 à la disposition de la ville. Ça me paraît, moi personnellement, je suis assez outré par cette façon de faire, mais au-delà de ça, monsieur le maire, ma question est plutôt de savoir si on ne devrait pas, à l'inverse, prévoir des réserves suffisantes, au-delà de la question d'Emmanuel Lebeau, pourquoi passe-t-on de 14 millions à 9 millions, mais des réserves suffisantes pour avoir une véritable stratégie sur l'UEM. Bon, je ne veux pas déflorer, puisque nous avons travaillé ensemble sur ces questions, ce que va vous dire Jérémy Aldrin sur cette stratégie, mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on doit poser les problématiques en termes financiers, en termes de gestion financière de l'UEM, alors qu'on est à la veille de la fin du contrat qui nous lie avec EDF. Et donc, il y a une véritable réflexion à faire sur l'entreprise elle-même de l'UEM, de façon à ce que cette poule aux œufs d'or, certes, mais puisse toujours progresser et que nous ayons toujours, nous, ville de Metz, une UEM extrêmement dynamique. Je crains que ceci ne soit un mauvais signe. Voilà, je ne voudrais pas être plus long pour réserver
tout ça. Merci. Monsieur Aldrin.
Je ne serai pas long non plus. Simplement pour dire, je rejoins tout à fait ce qu'il vient de dire, d'être dit sur l'importance de ce point, qui est probablement le plus important, au regard de l'aspect stratégique qu'il confère à la ville de Metz. Et sur ce qui vient d'être dit également, à savoir que bah, pour la première fois, l'UEM doit prélever dans ses réserves pour, c'est ça la question, nous donner les 8,5 millions d'euros à la ville de Metz. C'est malheureusement pas quelque chose qui doit être de nature à nous surprendre. La décision en 2007 de l'Union européenne de déréglementer le secteur de l'énergie, à l'époque, a imposé une évolution à court terme et à long terme de l'UEM qui va peser, qui pose des questions sur la pérennité de l'usine et sur l'efficacité des résultats qui sont désormais fiscalisés. Et notamment, c'est l'évolution entre 2009 et 2008. Mais en 2008, le bénéfice comptable était de quasiment 11 millions d'euros. Donc là, on voit quand même une évolution qui est, sur laquelle on peut s'interroger légitimement. D'autant plus que, comme cela vient d'être dit également, le gros problème, c'est qu'en étant seul face à un secteur de l'énergie déréglementé, l'UEM est trop petit, va être trop petit pour résister à la domination des géants du secteur de l'énergie. Surtout parce que l'UEM ne produit à peine 20% des besoins énergétiques de ses clients et le reste, c'est des besoins complémentaires par EDF dans un contrat qui était extraordinairement avantageux pour la ville de Metz, mais qui s'achève, et qui s'achève là, maintenant. Alors, la question, c'est évidemment, est-ce qu'il faut, oui ou non, adosser un partenaire énergétique à l'UEM ? Bon, nous pensons que oui. Mais c'est une question qui est tellement importante que, de la même manière que nous avons eu un débat d'orientation budgétaire au début du Conseil, il serait bien d'avoir un débat d'orientation stratégique avec les comptes et les perspectives d'avenir pour l'UEM dans cette Assemblée municipale et pas aborder ce point, point 37, à minuit et des poussières, comme si on accepte, j'allais dire vulgairement, un dividende. C'est une question qui est bien plus importante que ça.
Merci, Monsieur Thierry Jean.
Oui. L'UEM a réalisé l'année dernière un résultat net de 9,2 millions d'euros. URM, qui est sa filiale à 100%, a réalisé un bénéfice net de 4,2 millions d'euros. Le résultat consolidé de l'entreprise est de 14 679 000 euros. Alors, bien évidemment, on ne distribue pas le résultat consolidé pour la bonne et simple raison que le résultat est constaté au 31 décembre en même temps dans les filiales et que c'est par une remontée de dividendes que le bénéfice de l'URM sera intégré dans les résultats 2011, dans le résultat financier 2011 de l'UM. D'accord ? Cela dit, on calcule quand même un résultat consolidé. Et l'accord que nous avons avec l'autre actionnaire, hein, c'est que nous raisonnons en pourcentage du résultat consolidé. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de distribuer plus que le résultat net ? On a le droit de distribuer le résultat net et les autres réserves. Il y a le report à nouveau et les autres réserves. À titre d'information, l'UM a 122 millions d'euros de réserves, d'accord, dans lesquelles on a effectivement puisé 900 000 euros du point de vue comptable, parce que du point de vue des flux, du point de vue du cash, il faut savoir que l'UM a récupéré depuis, à la date du 15 juillet, les dividendes de l'URM, dont 4 millions d'euros. Donc on ne l'a pas appauvri. Et j'en veux pour preuve que les fonds propres de l'UM sont restés, en 2010, au même niveau qu'en 2009 et seront supérieurs en 2011, puisque entre le résultat de 2010 UEM plus le résultat 2010 d'URM constaté en 2011, moins la distribution de dividendes, il y aura une augmentation de 5 millions d'euros. Alors, c'est ce qui explique que vous ayez une entreprise qui s'appelle UEM, qui a une trésorerie de 36 millions d'euros et un endettement nul. Je répète, un endettement nul. Je ne sais pas s'il existe une autre entreprise de cette taille qui est en un endettement nul. Par ailleurs, cette entreprise a une filiale URM qui gère les réseaux, hein, qui est l'opérateur de réseau, et cette entreprise-là réalise un chiffre d'affaires inférieur. Hein, UM, c'est 210 millions d'euros à la louche. URM, c'est 57 millions d'euros. Mais en termes de structure bilancielle, pour des raisons extrêmement complexes, parce que cette entreprise amortit bien sûr son matériel, mais en plus, tous les opérateurs de réseau ont le droit de constituer, en plus des amortissements, des provisions pour dépréciation. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un élément en 1990, vous l'amortissez sur 20 ans et que vous le changez en 2010, en réalité, le prix a augmenté entre 90 et 2010, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, les seuls amortissements qui correspondent à la valeur 90 ne suffisent pas à renouveler, donc on constitue une provision pour avoir toujours les moyens de renouveler au niveau technologique optimal. C'est ce qui explique que URM se retrouve avec un montant de provision de 150 millions d'euros. Donc là, on a une entreprise qui, du point de vue financier, est parfaitement saine, et le fait de dire qu'on puise dans les réserves est économiquement faux. On distribue une partie des réserves après que ces réserves aient augmenté de 4 millions d'euros. Vous êtes de mauvaise foi. Bon, non. Bon. Ensuite, sur la stratégie de l'entreprise. L'entreprise va investir, elle se prépare à investir. Et alors, à la fin de l'année, la trésorerie est 36 millions. L'investissement.
Oh, arrêtez de l'interrompre sans cesse, on ne vous a pas interrompu, bon. Enfin.
Le rapport d'activité qui est joint au point suivant répond à toutes ces questions. Donc, entre l'annexe de ce point... Bref. Donc, en ce qui concerne la stratégie de l'entreprise, je voudrais rassurer Jérémy Aldrin. Je voudrais lui dire que la fin du contrat avec EDF est tout à fait anticipée. Que On en débat de manière régulière. Il y a un conseil d'administration, il y a un comité d'investissement. Il s'y dit des choses qui ont un caractère confidentiel. Et je vais vous répondre, Monsieur Aldrin, quasiment mot à mot, ce que m'a dit un jour Jean-Marie Roche quand je tenais à propos les propos que vous teniez. Il m'a dit, Monsieur Jean, et donc je m'adresse à vous, Monsieur Aldrin, l'UM, c'est une affaire très sérieuse qui est vitale pour la ville de Metz. Alors vous comprendrez que ça reste entre nous et qu'on vous informe. Et d'ailleurs, on va vous annoncer des choses dans les semaines et les mois qui viennent qui vous feront plaisir, mais qui pour le moment gardent un caractère confidentiel et qu'on ne souhaite pas partager avec vous parce que nous sommes des gens responsables. Je m'exprime là en tant qu'administrateur de l'entreprise. Non. Non, mais j'ai pas...
Non, plus,
non, 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 je m'exprime là en tant qu'administrateur.
Les autres élus de la majorité en savent autant que vous. Les autres élus de la majorité en savent autant que vous, les administrateurs en savent un peu plus, et les membres du comité stratégique encore un peu plus. Voilà.
Merci. Merci. Alors, je voudrais d'abord qu'on garde son calme. Il ne s'agit pas d'un service municipal, il s'agit d'une entreprise. Je demande à tous les gens qui ont des certitudes sur la loi de nous envoyer au tribunal. Voilà. Premièrement. Deuxièmement.
Les comptes d'entreprise sont publics.
Mais on l'a fait. C'est fait.
Est-ce que je peux continuer mon propos ? Monsieur Lebeau. Monsieur Lebeau, est-ce que vous pouvez avoir la courtoisie? J'essaye de respecter l'opposition, respecter la majorité. Est-ce que je peux parler comme président de séance? Je peux. Vous êtes trop bon. Bien entendu, j'ai consulté les services juridiques. Bien entendu, vous avez le droit à tous les documents que vous avez eus et seulement à cela. Bien entendu, vous pouvez aller pour toute entreprise chercher les documents à la Chambre de commerce et d'industrie, au tribunal, c'est fait pour ça. Et pour le reste, nous avons à gérer une entreprise, je vais quand même dire deux mots à Monsieur Aldrin. Monsieur Aldrin, effectivement. J'étais invité chez M. Mestrallet à déjeuner. C'était magnifique. Mais ne croyez pas que l'avenir soit de liquider l'UEM au bénéfice d'un gros groupe, même de l'adosser. C'est nous qui constituons un pôle exceptionnel, nous l'UEM. Et l'UEM, vous avez raison de le dire, change de métier. Rien à voir avec l'UEM d'il y a 10 ans. L'essentiel du travail de l'UEM maintenant, c'est son réseau de chaleur que nous sommes en train de développer, la stratégie que mène l'actionnaire majoritaire que nous sommes et qui restera dans la logique d'une entreprise, c'est-à-dire sans mettre sur la place publique les enjeux essentiels qui sont les nôtres et qui se débattent en comité stratégique. Un comité stratégique, ce n'est même pas un conseil d'administration. Ce sont des gens qui débattent avec les ingénieurs pour opérer les choix stratégiques qui sont extrêmement délicats en matière d'énergie, vous le savez. Tout est compliqué. Et l'UEM est au grand large des entreprises d'énergie avec son histoire, avec ses atouts, avec son personnel qui est exceptionnel, je le dis en pesant mes mots, et sans s'être adossé à personne. Et j'avais soutenu à l'époque la position de mon prédécesseur, qui avait cherché un partenariat auprès de la Caisse des dépôts plutôt que de s'adosser à un gros opérateur. Les anciennes régies municipales qui se sont adossées, comme vous dites, elles ont disparu. C'est l'exemple de l'électricité de Strasbourg, qu'un souvenir, qui est en fin de compte une filiale d'EDF, point final. Et nous avons, nous, ici, une position exceptionnelle, parce que même si le fameux contrat où j'achète pas cher et je vends au prix normal est terminé bientôt, nous avons anticipé. J'y travaille beaucoup avec d'autres administrateurs. Nous avons les administrateurs, nous avons un comité stratégique et nous travaillons. Et actuellement, la décision que nous avons votée aujourd'hui est une décision qui est complètement conforme à la situation financière de l'UEM, qui est devenue une petite nébuleuse, parce que, comme vient de l'indiquer Thierry Jean, il y a l'URM. Nous avons été amenés à créer une société pour le transport de l'énergie électrique, parce que nous transportons l'énergie électrique. Oui, mais c'est une filiale. Monsieur Thiel, je m'excuse de vous le dire, on est dans le droit des affaires. Et monsieur Thiel, on vous donne tous les documents qui sont possibles, et puis après ça, c'est le droit des affaires. Je m'excuse. Je vais parler devant monsieur Thiel, parce qu'il se souvient très bien. On en disait très peu ici, j'en dis bien plus. Et parce que je veux vous être agréable, essayer de vous mettre le plus possible dans le bain. Mais vous n'aurez pas ici les débats qui se passent à l'intérieur de l'UM, parce que c'est notre travail. Voilà. Alors, nous avons, et je pensais d'ailleurs que tout le monde serait content, une motion qui ne met absolument pas en péril les comptes de l'UM, je vous le répète, parce que c'était voté à l'unanimité. Pensez bien que la Caisse des dépôts et consignations, qui est quand même une société sérieuse, ça date de 1820. Ils sont encore là. Eh bien, ils ont voté avec nous. Et Non, je suis en train de vous répondre. Alors, un peu de silence. Un peu de silence. Ils ont voté avec nous ce prélèvement financier de distribution, sachant que c'était tout à fait dans les possibilités. Donc, l'actionnariat à 100% a voté cette décision. Et donc, moi, je vous propose de l'accepter, à moins que il y en ait qui ne souhaitent pas. Eh oui, on a mis la délibération. La délibération est jointe et c'est signé par le président du conseil d'administration qui s'appelle M. Laurent Lajoie, un homme parfaitement respectable, et c'était à l'unanimité. Voilà, alors y a-t-il des oppositions? Comment non? Je pose la question. Alors, explication de vote, madame, vous pouvez expliquer votre vote. Allez-y. Si.
Bon, monsieur le maire, je ne souhaitais pas du tout intervenir dans ce débat. Simplement, je crois, si vous voulez, que, à mon avis, vous savez, j'ai été destinataire des mails qui ont fait des allers-retours entre Emmanuel Lebeau, vos services, monsieur Pardonnet, l'ensemble depuis la semaine dernière. Monsieur le maire, je crois, si vous voulez, que lorsque les choses sont transparentes, et vous pouvez toujours me dire que c'est une entreprise, vous pouvez toujours m'expliquer qu'on ne peut pas dévoiler une stratégie, etc. Premièrement, monsieur le maire, je crois que nous sommes des élus comme vous. D'abord, nous vous avions demandé qu'il y ait une personne de l'opposition qui soit dans le conseil d'administration. Vous l'avez refusé. Okay. Deuxièmement, je pense qu'il aurait fallu également que pour que nous puissions d'abord participer au vote sur ce point, que nous ayons une transparence totale sur à la fois les comptes, parce que bon, moi je veux bien faire confiance à monsieur Jean, sauf que j'aimerais bien avoir la délibération, j'aimerais bien avoir noir sur blanc.
Elle est là, la délibération, vous
oui,
l'avez.
Non, mais pas complète, monsieur le maire. Vous le savez, les comptes annuels, on les a pas. Bon, et le rapport du commissaire. Moi, je crois, si vous voulez, qu'à un moment donné, monsieur le maire, lorsqu'on veut avoir une adhésion, il faut avoir de la transparence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, monsieur le maire, je souhaiterais que nous puissions reporter le point et revenir au prochain conseil municipal avec les documents que nous avions demandés. Merci, monsieur le maire.
Madame, vous en êtes à l'explication de vote. On n'est pas en train de proposer de reporter le point, on est en train de voter ce point, madame.
Je vous ai expliqué, monsieur le maire, que si le point devait rester en l'état,
oui,
nous ne participerons pas au vote.
D'accord.
Et d'autre part, voilà. Deuxièmement, je vous demande s'il vous est possible de reporter ce point.
D'accord. Alors, eh bien, écoutez, après cette explication de vote, il y a encore une explication de vote de M. Thiel. Alors, M. Thiel, allons-y.
Ben oui, je n'ai pas dit grand-chose, monsieur le maire. Hein, non, moi, je voulais simplement revenir un petit peu à du calme et puis vous dire des choses très simples. Monsieur le maire, il est évident, et là, je rejoins ce que vous avez dit et qui correspond d'ailleurs tout à fait, vous avez cité votre prédécesseur une fois de plus, mais vous avez raison, que l'on ne débatte pas des point de stratégie ultime sur l'UM lorsque des choses sont en cours et que cela pourrait remettre en question par un étalage public, forcément, puisqu'un conseil municipal l'est. Ah oui. Ça, je le comprends parfaitement, monsieur le maire, et nous le comprenons. En revanche, nous ne savons pas du tout s'il y a une stratégie. On ne sait pas s'il y a une stratégie. On ne sait pas du tout. Donc, autant je comprends le silence sur des aspects de négociation, etc., ça, je comprends parfaitement, autant on comprend moins la question, la non-réponse à la question « Y a-t-il une stratégie par rapport à 2012 ?» Parce que nous ne sommes plus en 2007 ou en 2008. Nous sommes bientôt en 2012, c'est-à-dire avec cette fin d'accord avec EDF. Deuxièmement, monsieur le maire, il y a tout de même une antinomie à prétendre que nous ne pouvons pas avoir accès aux comptes et aux rapports du commissaire aux comptes, alors que dans le même temps, vous dites que ces documents sont publics. Je rappelle que si nous sommes, ville de Metz, le principal actionnaire à 85%, ce n'est pas la majorité municipale en place qui est actionnaire à 85% de l'UEM. C'est bien la ville de Metz. Et en tant que ville de Metz, ça comprend et la majorité et l'opposition. Donc nous souscrivons à la demande qui a été faite, puisque nous en étions d'accord, on s'est d'ailleurs concerté sur ce point, de vous dire de reporter ce point. Et puis ça sera peut-être très calme d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on aura les comptes et le rapport au commissaire aux comptes, ça passera comme une lettre à la poste, mais avec les remarques qu'on a faites tout de même. Mais de ne pas refuser, ça trouble la chose.
Et vous votez quoi?
Ça dépend de votre réponse, monsieur.
Non, je ne vais pas répondre, vous êtes en train d'expliquer votre vote.
Oui, je suis en train d'expliquer mon vote, qui est un vote. On attend que vous nous disiez si on peut reporter le point ou pas.
Bien, qui est contre? Qui s'abstient?
On ne participe pas au vote.
Voilà. C'est très bien.
On ne participe pas au vote, ça ouvre toute possibilité juridique, comme vous le savez.
Très bien. Merci. Donc, unanimité, plus des gens qui n'ont pas participé au vote.